L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir l'économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali. Avec lui, nous allons traiter l'épineux problème de la crise bancaire américaine et le risque qu'elle génère sur un défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis et son impact économique, financier, monétaire et géopolitique sur le monde. Nous nous pencherons également sur l'État et la résilience de l'économie russe dans ce contexte et les possibilités qu'ont les pays africains à faire face à cette situation afin d'assurer la solidité et le développement de leurs économies. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Une nouvelle crise bancaire, financière et économique internationale se profile inexorablement à l'horizon, et ce pour plusieurs raisons. La multiplication des problèmes dans les systèmes bancaires de plusieurs pays, aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank et enfin la First Republic Bank. En Suisse avec le sauvetage de Crédit Suisse, en Allemagne avec la Deutsche Bank, ont ravivé les craintes d'une crise financière majeure comme en 2008-2009. Mais d'autres problèmes aggravants s'imposent également avec la plus grande acuité, à savoir la croissance en berne des pays de l'Union européenne, combinée avec une hausse de l'endettement public. Mais surtout, le ralentissement brutal de l'économie américaine et le risque de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis qui font craindre le pire à l'économie mondiale. Ceci survient alors que les crises de 2008-2009 ainsi que celles liées à la pandémie de Covid-19 n'ont pas encore été entièrement jugulées, le tout sur fond d'une inflation galopante sans précédent depuis près de 50 ans. Enfin, la fragmentation progressive des relations commerciales internationales et des chaînes d'approvisionnement qui s'est accélérée brutalement avec les sanctions unilatérales prises par les pays occidentaux contre la Russie suite au lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Suite à la crise des subprimes aux États-Unis, rappelons-le, en 2007-2009, et la faillite de la banque Lehman Brothers, la réserve fédérale américaine, la Fed, a créé en 2009 le quantitative easing, assouplissement quantitatif en français, ou tout simplement la planche à billets pour sauver le système bancaire, rachetant elle-même des créances afin d'assurer la liquidité en dernier ressort. Toutes les banques centrales occidentales ont emboîté le pas à la Fed pour sauver le système, car à l'époque, on redoutait un risque de faillite généralisée des banques et donc l'effondrement de l'économie mondiale. Selon les statistiques de la Fed, de 1915 à 2010, le bilan de la Banque centrale américaine est passé de près de 0 à 1 trillion de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. En 2009, lorsque l'outil du quantitative easing est inventé pour faire face à la crise financière, le bilan de la Fed est passé d'un trillion à 5 trillions entre 2009 et 2018, du jamais vu dans l'histoire de cette institution. Puis entre 2020 et 2021, qui présente également une progression encore plus importante, passant de 4 à 9 trillions en presque une année dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ainsi, face à cette situation, dans une période d'incertitude et de crise, le cours de l'or ne cesse de croître depuis le début du mois de mars. Il a récemment dépassé les 2 000 $ l'once à la bourse de Londres. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la Grande Dépression économique. Mais de toute évidence, la demande pour le métal précieux a pris un nouveau tournant l'an dernier et les banques centrales en sont à l'origine. Avec plus de 1000 tonnes en 2022, elles ont effectué des achats dont des proportions jamais vues depuis 1950 et représentent désormais 33% de la demande mensuelle. Ainsi, le système financier et monétaire international est-il en train de laisser tomber l'étalon dollar au profit d'un futur nouveau système basé sur l'or. Les États-Unis seront-ils l'épicentre du tsunami financier qui risque de frapper à cause des doutes croissants confirmés par les responsables américains de défaut de paiement sur la dette souveraine des États-Unis? Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs sur le futur proche de l'économie mondiale, j'ai le plaisir de recevoir l'économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali. Modibo Mao Makalou, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci, cher ami Kamel Louadj, c'est un plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, l'État fédéral américain est la première victime de la hausse des taux directeurs, vu qu'il n'arrive plus à financer ses déficits au fur et à mesure de l'augmentation des taux auxquels il emprunte pour rembourser ses dettes passées. Alors, plus les taux, bien sûr, augmentent, plus il faut d'argent pour rembourser les vieux crédits, l'État fédéral est dans une situation dramatique car les charges de ces remboursements ont explosé. La dette publique américaine a triplé depuis 2008. En 2008, le risque venait des banques, c'est-à-dire lors de la faillite de Lehman Brothers, et s'était propagé vers les ménages et les entreprises. L'État était intervenu pour rétablir la stabilité de l'ensemble du système. Alors que aujourd'hui, le risque vient de l'État lui-même qui doit assurer la survie de l'économie et proposer un plan de relance et assumer en même temps une période de hausse des taux plus long que prévu. Alors, la hausse de la rémunération des CDS, monsieur Makalou, observée sur les marchés américains, n'annonce-t-elle pas que les investisseurs anticipent ou au moins envisagent la possibilité d'un défaut de paiement du gouvernement des États-Unis? Qu'en pensez-vous?
Merci bien, cher ami. Vous avez parlé des CDS, Credit Default Swaps, c'est-à-dire ce sont des titres qui garantissent contre les risques de défaut de paiement sur la dette souveraine. Et vous savez, ces titres ont atteint, leur prix a atteint un niveau historiquement élevé. Depuis 10 ans, on n'avait pas vu une telle hausse, ce qui marque la fébrilité sur les marchés par rapport à un risque de défaut de paiement du gouvernement américain, ce qui aurait des conséquences incalculables, non seulement pour la croissance et l'emploi aux États-Unis, mais aussi sur l'économie mondiale. Parce que vous savez, les États-Unis, c'est la première économie au monde en termes nominaux, le PIB le plus important au monde. Mais secondo, ce que les porteurs de bons américains, les plus importants sont deux pays.
Les obligations d'État, vous voulez dire?
Oui, obligations d'État, les bons du Trésor américain sont la Chine et le Japon, qui sont la deuxième et troisième économie au monde. Et absolument, vous savez que les obligations américaines aussi, en principe, sont quand même des symboles de référence au niveau de la finance mondiale. Elles sont supposées être des garanties sûres. Mais pour revenir à ce que vous aviez expliqué un peu plus tôt, nous faisons face à ce qu'on appelle la pandémie, pour moi, la pandémie de l'inflation. Et cette inflation, nous n'arrivons pas à la juguler. Et vous savez, c'est du ressort des banques centrales, donc des États, de lutter contre l'inflation, parce que l'inflation érode et diminue le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, les États, à travers leur banque centrale, essayent de lutter contre l'inflation en renchérissant le crédit, en relevant les taux d'intérêt, ce qui va renchérir le crédit et qui va empêcher les ménages et les entreprises d'emprunter davantage, et cela va réduire la demande et réduire la consommation des biens et des services et finalement réduire l'inflation. Mais malheureusement, malgré la hausse des taux comme nous ne l'avions jamais vu, parce qu'il y a 2-3 ans, nous étions à des taux proches de zéro dans les pays les plus développés, mais l'inflation, elle persiste. Aux États-Unis, nous sommes toujours au niveau de 5, alors que la cible de l'inflation de la Federal Reserve Bank, c'est 2%. En Europe, la cible de la Banque Centrale Européenne est de 2%, mais nous sommes autour de 8%. Et ce qui veut dire que l'inflation persiste et que les banques centrales ont du mal et les États ont du mal à lutter contre cette inflation. Mais comme vous l'avez dit, avec la hausse du taux d'intérêt, évidemment, la dette publique aussi augmente. La dette publique augmente et les intérêts débiteurs uniquement pour l'année dernière du gouvernement des États-Unis, c'était 775 milliards de dollars US.
Donc justement, est-ce que ce n'est pas, parce que c'est quand même incroyable, Donc, pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux. Et quand on augmente les taux, donc là, le crédit augmente. Est-ce que ce n'est pas tenter d'éteindre un feu en l'aspergeant d'essence?
Mais vous savez, personne ne sait comment lutter réellement contre l'inflation. Chacun y va. Moi, je pense que tout dépend de la nature de l'inflation que nous avons. Et moi, je pense que cette inflation, elle a sa raison. Il faut lutter contre les maux dans leurs causes, pas dans leurs effets. Et je pense que l'inflation, en fait, ne reflète que ce qui se passe au niveau géopolitique au monde. Vous savez, les différentes crises dans les régions du monde qui ont amené la hausse du prix des hydrocarbures. Et vous savez, quand le prix des hydrocarbures augmente, eh bien, ça a un effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie mondiale. Mais en plus de cela, ça a un effet non seulement sur les prix de l'énergie, mais sur les prix de l'alimentation et des transports, surtout des transports maritimes. 80% du commerce mondial, évidemment, se fait par voie maritime. Et aussi, sans compter les assurances, comme on le voit, les assurances sur les marchandises et toutes les assurances, par exemple, sur les crédits bancaires et sur autre chose, sur les commerces. Parce que nous rentrons dans une zone de fébrilité et de grands risques pour l'économie mondiale.
Prenons l'exemple, Monsieur Makalou. Dans les années 80, quand il y a eu la première inflation, je crois que c'était en 86 ou 80, avec Paul Volcker.
Oui.
Parce que même s'il y a eu cette augmentation qui a été effectuée par Jérôme Powell et la Banque Centrale Européenne, mais les taux réels, ils demeurent encore négatifs. Parce que les taux réels, c'est le taux directeur moins l'inflation, alors que l'inflation, elle dépasse le taux directeur. Et Paul Volcker, dans les années 80, il a augmenté les taux jusqu'à 20% pour avoir des taux réels positifs. Est-ce que ce n'est pas des petites mesurettes justement, qui n'arrangent à rien? Ils aggravent la situation de l'économie réelle et ils n'apportent pas une solution justement dans la sphère financière et monétaire.
Oui, c'est ça le grand débat, parce que vous savez, le fait de vouloir lutter contre l'inflation en renchérissant le crédit, mais en même temps, vous voulez ralentir l'économie, mais donc vous allez vers un risque de récession. Et si vous allez vers un risque de récession en augmentant les taux et en ralentissant l'économie, ben écoutez, vous allez augmenter aussi le chômage. Donc c'est un peu cela le dilemme, mais c'est un choix de politique publique. Mais en réalité, je pense que c'est en fait une combinaison de la politique fiscale, parce que la politique économique est basée non seulement sur la politique fiscale, c'est-à-dire la politique budgétaire. Évidemment, vous avez vu que certains États ont quand même fait des cadeaux aux ménages et aux entreprises pour leur permettre de dépenser en même temps, pour compenser. Je pense qu'il faut quand même un savant dosage entre la politique monétaire et la politique fiscale pour voir un peu comment l'économie va se comporter. Mais cette fois-ci, comme vous le dites, c'est l'économie mondiale qui est affectée. Et vous savez, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous avons une économie mondialisée. Et les effets dominos sont courants. Donc, toutes les économies sont interreliées avec les nouvelles technologies. L'information est instantanée. Les marchés financiers sont interconnectés. Et donc, cela fait que nous allons en parler, par exemple, sur le marché des matières premières. Tout cela a un enjeu aussi.
Alors, ma deuxième question, c'est toujours dans le même sens. Les réserves d'or des banques centrales mondiales ont grimpé de 228 tonnes. Atteignant un niveau record pour le premier trimestre depuis 2010. Jamais vu ça. Alors, la Chine a ajouté de l'or à ses réserves pour la sixième fois consécutive durant ces six mois derniers et prolongeant ses achats de ce métal précieux, alors que les banques centrales du monde ont continué aussi d'accroître leurs avoirs dans un contexte, comme vous le dites à juste titre, de risques géopolitiques et économiques croissants. Alors, cette ruée compte pour l'or, parce que je crois que vous serez d'accord avec moi que tout le monde sait que la Chine ne déclare pas son vrai stock en or. Elle déclare 2000 et quelques tonnes, mais les spécialistes disent qu'on n'est pas loin de presque 29 000 tonnes pour le tout, c'est-à-dire privé et public, mais pour le public, au moins 14 500 tonnes. Ce qui fait que c'est 1,8 fois le stock des États-Unis. Alors, pourquoi cette ruée sur l'or? Et si le dollar est toujours solide et que la dédollarisation est une illusion, comme l'affirme l'ensemble des défenseurs du système actuel, pourquoi les banques centrales augmentent-elles leur stock en or ?
Merci pour cette question. Vous savez, les réserves officielles des banques centrales sont essentiellement composées de stocks d'or et de devises. Les devises, parce que l'or, c'est une valeur refuge, mais on considère aussi que les devises sont des valeurs refuge et la devise des devises, jusqu'à récemment, c'était le dollar.
Oui.
Mais vous remarquerez aussi qu'il y a quand même 20 ans, près de 3/4 des réserves officielles en devises étaient composées de dollars. Maintenant, il y a 2 ans, nous étions déjà à un peu moins de 60%. Et maintenant, avec ce risque, avec les problèmes politico-budgétaires aux États-Unis et ce risque de défaut de paiement, le dollar est fragilisé. Mais aussi, le fait que les pays, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud aient décidé de se concerter pour quand même trouver des alternatives au dollar, sans compter la position de l'Arabie Saoudite, grand producteur d'or noir. Tout cela fait que maintenant, les gens sont en train de se détourner du dollar parce que le dollar est de plus en plus utilisé par le gouvernement américain comme punition contre les pays. L'Iran peut l'attester et d'autres pays aussi, le Venezuela, etc. Donc, pour se prémunir contre cela, il y a une dédollarisation qui est en cours. Mais ne nous trompons pas, le dollar est quand même la monnaie de réserve d'excellence à ce jour, parce que environ 80% des transactions internationales se font en dollars. Mais si nous continuons sur cette lancée, à mon avis, je pense que d'ici 5 ans, le dollar risque de perdre sa place de monnaie refuge. Et maintenant, pour revenir à l'or, évidemment, comme je l'avais dit, les réserves officielles des banques centrales sont composées de stocks d'or et de devises. Maintenant, la question que l'on se pose, quelles devises les banques centrales sont en train de vendre pour acheter de l'or ? Vous pourrez vous-même répondre à cette question, parce que l'or, c'est une valeur refuge et c'est plus solide que n'importe quelle devise en ce moment. Et les cours sont en train de flamber. D'ailleurs, pour ce premier trimestre de 2023, l'or a gagné 3,5% sur l'euro en valeur et 5% sur le dollar. Donc, nous sommes sur une tendance qui risque évidemment de se consolider si la crise aux États-Unis au niveau du Congrès ne trouve pas de résolution.
Mais est-ce que justement le relèvement du niveau de la dette est une solution ou ceci est un colmatage bien que l'opération spéciale russe en Ukraine a accéléré le processus de l'inflation à cause aussi du renchérissement des hydrocarbures, mais l'origine de l'inflation ne vient pas de cette opération. Je crois que c'est les quantitative easing et d'abord d'un côté et puis la cherté de la transition énergétique qui a introduit une très grande inflation dans l'économie. Donc ce relèvement du niveau de la dette des États-Unis, cette folie, un jour il va bien falloir qu'elle s'arrête. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, depuis 1960, c'est la 78e fois 78 fois déjà, ce relèvement a eu lieu. Vous savez, au niveau en matière de finances publiques, aux États-Unis, c'est le Congrès qui décide, qui vote le budget et qui le met à la disposition du gouvernement. Et il faut un accord budgétaire pour relever le plafond du budget. Et ce plafond budgétaire a été atteint le 19 janvier 2023. Il est à 31 381 milliards de dollars US.
Ouais.
Et c'est 120% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de l'activité économique, de la richesse nationale des États-Unis en termes nominaux. Mais vous savez, en matière de dette publique, ce qui compte, c'est la soutenabilité de la dette, votre capacité à rembourser la dette. Mais vous savez très bien que tout le monde, c'est le monde entier qui finance la dette américaine, parce que c'est la planche depuis la démonétisation en 1971, le 15 août 1971 par Richard Nixon. Mais là, il n'y a plus de lien entre l'or et le dollar, et c'est la planche à billets qui finance le déficit américain, de même que les acheteurs de bons de trésor des obligations américaines. Donc l'Amérique est en train de marcher à crédit depuis très longtemps. Ce relèvement, évidemment, la polémique aux États-Unis en ce moment, c'est que une quarantaine de sénateurs américains se sont réunis cette semaine et ont publié un communiqué dans lequel ils disent qu'ils sont prêts à relever ce plafond budgétaire, mais à condition qu'il y ait des coupes budgétaires, c'est-à-dire un peu d'austérité. Évidemment, cela va en droite ligne de la bataille électorale qui se profile à l'horizon l'année prochaine. Comme vous le savez, le président Joe Biden est candidat à sa propre élection et ne veut pas procéder à des comptes parce que cela n'est jamais populaire. Et les Républicains aussi veulent se positionner par rapport à ces élections en lui faisant faire des compromis, y compris des mesures, adopter des mesures impopulaires. Donc, cette bataille va continuer, mais attention, parce que il y a une date limite pour le relèvement du plafond budgétaire. C'est le 5 juin 2023.
Monsieur Makalou, le relèvement des taux de la Fed et de la BCE, justement, a fait chuter la valeur des obligations émises par les États-Unis. Alors que, justement, ces obligations d'État sont le pilier central et le mur porteur du système financier et monétaire international. Je crois que la réglementation prudentielle Bâle 1, 2 et 3 impose justement aux banques d'en avoir dans leurs comptes. Mais le relèvement du taux met beaucoup de banques dans des difficultés énormes, comme nous l'avons vu, la faillite des 3 ou 4 banques déjà, et avec le risque de contagion vers les banques européennes. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que vous pensez que la faillite est envisageable pour de nombreux acteurs financiers qui pourraient se retrouver en difficulté des deux côtés de l'Atlantique? Et le risque de contagion est-il vraiment faible, comme le martèlent certains responsables européens?
Oui, le risque est présent, mais vous savez, la décision politique a été prise d'éteindre le feu. Et vous avez vu que les banques régionales sont sauvées aux États-Unis et les dépôts, tous les dépôts sont assurés, et ce qui n'est pas la norme. C'est-à-dire que je pense que la décision politique qui a été prise de part et d'autre en Europe et aux États-Unis, et vous savez qu'il y a eu une grande concertation récemment de la Banque centrale d'Angleterre, de la Banque du Canada et de la Federal Reserve et de la BCE et de la Banque nationale suisse. Tout cela, en fait, pour quand même que les banques commerciales n'aillent pas en faillite. Pour le moment, ce sont les banques régionales qui ont des difficultés, mais les États ont décidé de soutenir les banques. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec la Deutsche Bank, même si les fondamentaux sont en place, mais elle était fortement menacée. Mais l'Allemagne étant la première économie européenne, on ne pouvait pas se permettre que la Deutsche Bank soit en difficulté et la BCE, la Banque Centrale Européenne, est intervenue. Donc maintenant, ce qui se passe, je vous ai dit que nous avons une économie mondialisée et que interconnectée. Donc les systèmes financiers sont liés les uns aux autres et l'information est instantanée. Donc maintenant, avec les difficultés que connaissent non seulement les États au niveau de la dette publique, mais si nous avons en plus l'économie qui est en train de ralentir et donc le chômage en train d'augmenter, si nous avons des faillites au niveau du système financier, ben ça va poser d'autres problèmes. Mais inévitablement, avec la hausse des taux d'intérêt, le système financier, le système boursier et autres vont connaître des difficultés. Parce que, évidemment, les obligations souveraines des grands États et surtout les pays à faible revenu et les pays émergents vont connaître des difficultés parce que les capitaux sont en train de quitter ces zones pour les pays les plus industrialisés et les plus riches et pour aller se réfugier dans des sanctuaires, si je puis m'exprimer ainsi, financiers, c'est-à-dire les obligations souveraines des grands États, où on est sûr qu'on sera remboursé. Mais même cela n'est pas sûr, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, bien vrai que ce qui se passe aux États-Unis est exceptionnel et a des causes politiques, uniquement politiques, mais je pense que ça va se résoudre parce que les conséquences seront incalculables, comme je l'avais dit auparavant. Mais les banques centrales sont déterminées, les États sont déterminés à faire que nous n'ayons pas une récession mondiale liée à une récession économique et
mais
à
justement,
la faillite du système financier international.
La dernière question justement que j'aimerais bien vous poser, est-ce que les banques centrales ont-elles encore les moyens d'y faire face ou vont tout simplement recourir à la planche à billets comme la dernière fois?
C'est le parachute, hein, vous savez. Parce que vous savez, le cycle économique est un cycle à moyen terme et à long terme. Et c'est quoi qu'il en coûte, c'est l'impression que j'ai, que politiquement, ce qui a été décidé, quoi qu'il en coûte. Et cette politique, au niveau de la politique monétaire, c'est de financer la lutte contre l'inflation jusqu'à ce qu'elle s'estompe et qu'ils vont continuer à augmenter les taux et en même temps utiliser la politique fiscale aussi, mais en même temps, vous savez que les déficits budgétaires sont en train de grandir et la dette publique aussi est en train d'augmenter. Mais je pense que c'est la dette publique qui va faire les frais de cela, mais je pense que le financement par la politique monétaire sera de mise partout dans le monde pour lutter contre cette inflation.
Mais cela, justement, comme vous le dites, il va certainement augmenter l'endettement public et encore l'aggraver, alors qu'il y a beaucoup de pays qui sont déjà asphyxiés par cette dette publique. Et si l'on prend l'endettement public, enfin l'endettement global dans le monde, ça fait quelques mois, il a atteint plus de 300 000 milliards de dollars. C'est 350% le PIB du monde. Est-ce que cette dette est remboursable? Et si l'on continue à l'augmenter, est-ce que ce n'est pas assassiner l'économie mondiale, ce qui reste enfin de l'économie mondiale?
Mais c'est géré pas dans le bilan des banques centrales et c'est géré à terme. Donc c'est ça le poids qu'on coûte. En réalité, on repousse. Je vous ai parlé du cycle économique à moins long terme. Et donc on repousse dans l'avenir, dans le futur, tous les problèmes de paiement de la dette en attendant qu'il y ait un léger mieux pour l'économie. Et c'est cela qui va se passer parce qu'il n'y a pas d'autre alternative en ce moment et cette dette mondiale va continuer à s'accroître, mais les dirigeants à travers leur banque centrale vont mettre ça dans leur bilan et le repousser dans l'avenir. Mais c'est une bombe à retardement, comme vous l'avez souligné.
D'accord. Maintenant, pour justement avancer dans cette direction, l'endettement, il va falloir quand même penser à la réduction de l'endettement public. Et là, non seulement les États doivent faire rationner leurs dépenses, mais même les ménages. Et déjà, nous avons les ménages les plus faibles, ils sont déjà sous la pression et la pauvreté qui augmente et ainsi de suite. Est-ce que cela ne risque pas justement de provoquer des catastrophes sociales?
Oui, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Et justement, c'est la politique fiscale qui doit survenir pour aider les entreprises et les ménages. Et c'est pour cela que certains États font des chèques, certains États font des rabattements d'impôts. Mais cela, ces mesures fiscales doivent être prises par les États. Et malheureusement, il y a des États qui ont moins de marge de manœuvre, et c'est un de mes combats en ce moment au niveau du système monétaire international, que les pays à faible revenu puissent avoir cet espace fiscal pour aider les entreprises les plus vulnérables et les ménages les plus vulnérables. Généralement, ce sont les jeunes et les femmes. Bon, ces grands pays, ces pays industrialisés, ont cette marge fiscale, cet espace fiscal. Ils peuvent augmenter leur dette indéfiniment. Mais nous, par contre, nous avons des ratios à respecter encore, alors que nous avons des difficultés, mais non seulement parce que l'endettement est en train d'augmenter, mais si nous ne prenons pas garde, nous allons avoir des crises sociales. Dans tous les pays, aucun pays ne sera épargné parce que je vous ai dit que le monde est interconnecté maintenant, et les entreprises et évidemment les marchés. Donc ce problème, nous ne pouvons le résoudre que par le multilatéralisme et la coopération multilatérale. Il faut qu'au niveau du système financier international, qu'on s'asseye pour trouver des solutions, tous les pays, pour qu'on trouve des solutions de commun accord. Parce que si on laisse une partie des pays sur le bord de la route, évidemment, ça risque de rattraper l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, je pense que la politique budgétaire doit être utilisée pour soulager les entreprises et les ménages. Encore faut-il en avoir les moyens si l'endettement public est très élevé, si le déficit budgétaire est aussi important. Donc, évidemment, le financement par la planche à billets n'est pas du ressort de tous les pays parce que aussi l'inflation doit être maîtrisée.
D'autant plus que les économistes connaissent très bien ça. D'autant plus que les économistes connaissent très bien ça. C'est des choses qui ont été étudiées et mille fois analysées après ce qui s'est passé en 1923, 1929 ou avant.
Oui, mais surtout la stagflation, parce que si nous avons le problème de l'emploiement, de la montée du chômage et de l'inflation en même temps, nous allons vers un risque de catastrophe au niveau mondial.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste malien Modibo Mao Makalo, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali. Modibo Mao Makalo, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international, centrée sur la devise américaine, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire mondial de messagers, le SWIFT, duquel d'ailleurs la Russie et l'Iran ont été exclus, se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques, comme le pétrole et le gaz, essentiels à l'industrie occidentale, européenne en particulier. Alors, les risques d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement, comme le rouble et autres devises nationales, ainsi que d'autres logistiques d'approvisionnement et de transport. Bien, alors, sachant que le cœur du système, c'est-à-dire en plus de ce problème des bons de trésor américains, des obligations d'État américaines, sachant que le système actuel réside, le cœur du système réside dans la libéralisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide de l'argent qui correspond déjà aux transactions et au fond de réserve, c'est-à-dire pour anticiper sur les ventes futures, transformer tout cela en une bulle d'argent qui va à nouveau apparaître ou réapparaître dans les circuits aux États-Unis en aggravant l'inflation?
Oui, vous savez, je ne crois pas beaucoup aux sanctions économiques parce que, en fait, ces sanctions, je ne vois pas leur efficacité et, en fait, ça ne fait que réduire le commerce international alors que nous avons des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce et même le Fonds monétaire international pour encourager le commerce international et les transactions financières internationales. Je vous ai dit, le monde est interconnecté aujourd'hui, fortement mondialisé et tout est lié, l'information est instantanée. Donc, en réalité, chaque fois qu'il y a des sanctions, cela a un impact négatif sur l'économie mondiale. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que l'économie mondiale est en train de se fragmenter. Et quand il y a une fragmentation de l'économie mondiale, les coûts de transaction vont augmenter et les pays vont trouver des alternatives. Si le SWIFT est interdit à certains pays, ben, ils vont trouver d'autres moyens alternatifs de paiement, de transfert d'argent. Donc, si le dollar, le cours de l'or et les transactions, comme je vous l'ai dit, sur les marchés internationaux, 80% sont en dollars, si le prix du baril qui est libellé en dollars, si certains pays sont interdits d'avoir accès au dollar, mais écoutez, il y aura des alternatives encore, des options pour les faire dans d'autres monnaies ou même en troc. En tout cas, il y aura des alternatives. Mais tout cela réduit les transactions internationales et augmente les coûts de transaction, comme je le dis, et augmente aussi la fragmentation de l'économie mondiale. Mmh. Et cela n'est à l'avantage de personne. Donc, vous savez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire de la politique, mais évidemment, l'arme économique, évidemment, si on étudie les conséquences, vous allez trouver que c'est loin, très loin des effets escompté lors du déclenchement de ces sanctions économiques.
Mais justement, le dollar, si cette pyramide d'argent qui correspond aux transactions dans les hydrocarbures, et si personne, de plus en plus, personne n'en veut, cet argent-là, il va réapparaître encore dans les circuits aux États-Unis. Est-ce que ça ne risque pas justement d'aggraver le problème? Alors, la question suivante, que nous l'avons déjà effleurée tout à l'heure, est-ce que vous pensez que il est évident qu'il va falloir donc diminuer l'endettement. Quelle politique pensez-vous ou quelle marge de manœuvre les gouvernements ont? On va essayer maintenant de d'esquisser un peu qu'est-ce qui peut être fait justement pour que cet abaissement de l'endettement en général ne se répercute pas négativement sur la vie des gens et sur l'économie réelle. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Vous savez, historiquement, l'endettement public dans les grands pays est lié au conflit armé. Chaque fois pour financer une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la planche à billets. Et les tensions géopolitiques dont je vous parlais, moi, je suis pour quand même l'amélioration de la coopération multilatérale, le renforcement du multilatéralisme, que les pays s'asseyent autour d'une table pour discuter, pour trouver des solutions. Mais les conflits armés ne résolvent rien. ceux qui encouragent les conflits armés et qui fournissent des armes, qui achètent des armes pour les fournir à des belligérants ou qui encouragent des guerres ici-là, je pense que tout cela peut poser des problèmes. Et évidemment, chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, ça prend de l'argent d'un côté de l'économie pour l'amener vers un autre côté de l'économie. Et l'économie de guerre, en ce moment, il faut vraiment que nous fassions attention parce que c'est ça qui contribue à alourdir la dette publique et aussi à faire en sorte que l'économie soit moins florissante dans le monde. Parce que si nous devrions, et il est d'ailleurs constaté que les pays qui font le plus de commerce entre eux ont généralement tendance à ne pas avoir de conflits entre eux. Mais évidemment, il y a toujours certains pays qui tirent avantage de ces conflits. Et évidemment, nous devons faire attention à ce que, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un village planétaire. Et évidemment, les conséquences des conflits peuvent se propager. Comme le disait Machiavel, on sait quand est-ce qu'on commence la guerre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine.
Donc, dans ce cas de figure, M. Makalou, je crois que vous serez d'accord avec moi que la monnaie a toujours été un objet de géopolitique. Pas juste un lien.
Absolument.
Avec la monnaie, c'est l'outil par excellence de la géopolitique. Alors, la crise actuelle fait que, justement, comme vous le soulignez à juste titre, et c'est dans la bouche de beaucoup de dirigeants de ce monde, l'économie de guerre. Emmanuel Macron, par exemple, l'a dit plusieurs fois, nous sommes en guerre, nous sommes dans une économie de guerre. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Et les dépenses militaires, justement, du monde, dans le monde entier, selon le Centre de recherche sur la paix de Stockholm, en 2022, ont explosé. Ont atteint des chiffres absolument astronomique jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Est-ce qu'il y a des risques?
Mais oui. Non, il y a des risques, mais vous voyez, que ce soit, vous voyez, c'est en Afrique qu'il y a le plus de conflits dans le monde. Nous avons 55 pays en Afrique et vous regardez la carte de l'Afrique, aucune région de l'Afrique n'est épargnée par des conflits. Mais vous avez des conflits en Europe, vous avez des conflits un peu partout dans le monde. Il y a des tensions, même quand il n'y a pas de conflits, il y a des tensions géopolitiques, mais c'est l'absence de conflits, c'est l'absence de guerre, mais c'est en réalité des conflits par pays interposés. Donc, je pense que cet état de situation, comme je l'ai dit, il faut renforcer la coopération multilatérale et il faut reformer les institutions internationales. Par exemple, les Nations Unies, on se rend compte.
Absolument.
Vraiment, c'est un système désuet qui ne sert plus la paix mondiale, qui est partiale, et où les pays africains, par contre, ou certains pays, les pays africains n'ont aucune voix en dehors de l'Assemblée générale. Évidemment, les discussions sont en cours pour que l'Afrique ait une voix au Conseil de sécurité. Même si on a une voix au Conseil de sécurité, est-ce qu'on aura un droit de veto? En tout cas, je pense que ces institutions internationales, que ce soit sur le plan de la gouvernance mondiale, les institutions de Bretton Woods qui ont été quand même créées en juillet 1944, l'année prochaine, ça va faire 80 ans que ces institutions ont été mises en place. Là, les Nations Unies ont été aussi créées à la suite de la Société des Nations à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela, le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. La dynamique au niveau des populations a basculé vers l'Asie et l'Afrique. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard d'Africains. Et l'Inde vient de surpasser la Chine de quelques têtes. L'Inde a 1,4 milliard d'habitants et la Chine a 1,4 milliard d'habitants. Donc, vous voyez, sur à peu près les 8 milliards de personnes que nous sommes sur Terre, évidemment que la démographie est en train de tout changer, mais il faut quand même rééquilibrer tout cela. Je pense que c'est en faisant cela, en changeant en allant vers un nouvel ordre mondial où il y aura un dialogue inclusif, participatif, représentatif, cela va amener la diminution des conflits. Et nous pourrons consacrer ces ressources économisées au développement durable, c'est-à-dire au progrès économique, au développement humain et à l'environnement, à la préservation de l'environnement, parce que c'est un challenge, un défi énorme aujourd'hui, la transition énergétique. Et évidemment, cela aussi amène pour quand même sécuriser les ressources pour la transition énergétique pour l'avenir. Cela aussi amène des conflits autour des minéraux et des ressources naturelles. Donc, il va falloir que vraiment nous trouvions la solution, mais cela va amener quand même une réforme de la gouvernance mondiale, qu'elle soit plus équitable, plus inclusive.
Bien, alors, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'émergence du monde multipolaire, prôné depuis plusieurs années par le président Poutine et les autres chefs d'État, au moins ceux qui font partie des BRICS, s'est accélérée. Et c'est clairement, on commence à voir des lignes de fracture entre deux mondes, l'un qui veut un monde multipolaire et multilatéral, comme vous dites, et le monde occidental qui continue donc dans la même logique de domination qu'avant. Alors, dans ce monde, d'abord, je voudrais d'abord avoir votre avis sur l'économie russe. Est-ce que vous pensez qu'elle est résiliente? Est-ce que vous pensez que elle tient encore le coup? Elle a réussi à déjouer les sanctions? Et puis, quelle est la place de l'Afrique? Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans ce monde? L'Afrique, que vous dites, bien sûr, est un monde, est un continent qui va avoir absolument sa place, mais il faut encore que les Africains le veuillent bien.
Oui, c'est ce que vous venez de dire est très important. C'est la question est très importante. J'ai constaté, en tout cas personnellement, que depuis février 2022, lorsque l'opération spéciale a été déclenchée, comme vous le dites, j'ai constaté que les effets des sanctions n'ont pas atteint les résultats. Et que je pense qu'il y a eu mal donné et qu'il fallait quand même tenir compte que la Russie, c'est quand même la 12e économie du monde. C'est le pays le plus vaste au monde, 17 millions de kilomètres carrés. Et que même si la population est d'environ 150 millions, tout cela fait que la Russie dispose de ressources naturelles importantes. Et elle a, je crois, 18 pays qui l'entourent. Mais surtout, ce qui vient de se passer, moi, je vois, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai dit que la démographie a basculé, à travers les BRICS, la Russie a renforcé son commerce, non seulement avec la Chine, qui est la 2e économie mondiale, mais aussi avec l'Inde, absolument, qui est la 5e économie mondiale. Voilà. Bon, donc, vous voyez que maintenant, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite demande à rejoindre les BRICS, l'Argentine demande à rejoindre les BRICS, l'Égypte, qui est la 2e économie mondiale africaine, demande à rejoindre les BRICS, mais l'Algérie aussi, qui a une puissance au niveau de l'économie, qui est, je crois, la 5e économie africaine, demande à rejoindre les BRICS. Donc, vous avez les pays émergents et les pays à faible revenu. Si on y prend garde, si on ne réforme pas ce système unipolaire mondial qui est en cours en ce moment, on risque de voir la fragmentation de l'économie mondiale. Et comme vous l'avez dit, l'économie russe, elle est résiliente. Elle est résiliente. La Russie est grande productrice de pétrole, de gaz, mais aussi de céréales et d'intrants agricoles. Donc tout cela fait que elle exporte vers beaucoup de pays. C'est un pays qui exporte énormément. Mais aussi, il y a des pays européens qui sont entièrement dépendants de leur approvisionnement en gaz, par exemple, vis-à-vis de la Russie, l'Allemagne et l'Italie,
maintenant,
par exemple.
Actuellement, même la nourriture, même les céréales.
Oui, la nourriture.
D'ailleurs, il y a un problème sur la reconduction de l'accord sur...
Et l'effet des sanctions est en train de se ressentir, et l'inflation, même en Europe occidentale, est un peu lié à tout cela. C'est ce que je n'ai pas voulu dire directement la dernière fois. Donc, tout cela est aussi, moi, je vois, vous savez très bien qu'il y a le sommet Russie-Afrique qui se prépare pour juillet 2023 et que maintenant, la Russie est en train de renforcer sa présence en Afrique sur le plan non seulement militaire, mais économique. Et maintenant, vous savez aussi que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Environ de l'année dernière, en 2022, 285 milliards de dollars d'échanges entre l'Afrique et la Chine. Donc, tout cela, l'un dans l'autre, vous savez, on attend le sommet du G20 qui va se tenir en Afrique du Sud. Et vous savez que l'Afrique du Sud est l'économie la plus industrialisée de notre continent. Évidemment, vous avez vu aussi que le niveau des votes, si vous analysez les votes des pays africains et des pays du monde vis-à-vis de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité par rapport à l'opération spéciale, je pense qu'il faut en tirer les conclusions que le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer et que cette nouvelle dynamique, évidemment, veut un changement, un nouvel ordre mondial, vers un changement vers un nouvel ordre mondial plus inclusif, plus équitable et plus représentatif de l'ensemble des populations du monde.
D'accord. Maintenant, allons au fond des choses concernant l'Afrique. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de gens. Ils notent pratiquement tous, il y a juste titre, on ne peut pas leur dénier ça, c'est qu'ils veulent la coopération avec les BRICS, ils veulent la coopération avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Mais ils disent tous que les Africains n'accepteront pas parce que ces pays viennent en Afrique pour, comme des exploiteurs pour remplacer l'ancien exploiteur occidental. Donc, ils ne veulent pas le remplacement d'une tutelle par une autre, mais ils veulent une coopération à part entière et sur le même pied d'égalité, dans des accords gagnant-gagnant, dans l'industrie, l'agriculture, la science, la technologie, la culture. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, l'Afrique a changé. Monsieur Sergei Lavrov a été à Bamako récemment. Il avait fait une tournée africaine. Mais Kamala Harris aussi, la vice-présidente des États-Unis, était en Afrique récemment. Et elle est venue pour renforcer les partenariats au niveau des investissements. Ben, Monsieur Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a quand même souligné qu'il voulait renforcer aussi les partenariats entre les pays africains et la Russie. Et donc, la tenue du sommet Russie-Afrique va certainement contribuer dans cela. Mais vous savez, l'Afrique a changé. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et vous savez, nous, Africains, nous venons de lancer depuis le 1er janvier 2021 ce qu'on appelle la zone de libre-échange continental africain, qui est la plus vaste zone de libre-échange dans le monde et qui dépasse de très loin l'Union européenne, le Mercosur en Amérique latine. Et cela va regrouper, comme je vous l'ai dit, 1,4 milliard de consommateurs africains potentiels. Donc, c'est pour le moment, sur les 55 pays africains, vous en avez 54. Et l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions et demi de kilomètres carrés, c'est 84 000 kilomètres de frontières et c'est des pays très divers, mais c'est un continent riche en ressources humaines et en ressources naturelles parce que nous avons la population la plus jeune au monde. L'âge médian en Afrique est de 19 ans. Pendant que les populations sont vieillissantes en Asie et en Europe et dans d'autres parties du monde et en Amérique, la population africaine est très jeune. La moitié du continent a moins de 14 ans. Donc, vous voyez que à l'horizon 2030-2040, l'Afrique va être la zone du monde, l'une des zones du monde les plus peuplées. Parce que d'ici 2050, la population va doubler, nous serons environ 3 milliards d'Africains. Cela va tout changer. Mais il faut, maintenant, l'Afrique est divisée en communautés économiques régionales, géographiques. Il y en a 5. En Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Afrique de l'Est, et en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc ces communautés économiques régionales, pour notre part en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEA, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que vous savez, M. Louage, qu'aujourd'hui, c'est les 15 pays qui regroupent la CEDEAO, si c'était un seul pays, serait la 18e puissance économique au monde. Mais l'Afrique, si vous prenez les 55 pays, nous serions 5e ex aequo avec l'Inde en puissance économique au monde, ou 6e, avant la Grande-Bretagne et la France. Malgré le fait que l'Afrique ne constitue que 3% du commerce mondial, mais quand même 18% de la population mondiale. Donc, maintenant, les Africains sont en train de prendre leur destin en main. Et je veux dire, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec la Russie, la Chine ou l'Inde, les Africains veulent des partenariats gagnants-gagnants. Nous voulons travailler sur des avantages comparatifs des uns et des autres. Et tout cela, il y a une vision africaine à l'horizon 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine, où l'Afrique a défini sa vision et ses priorités stratégiques. Et donc, c'est dans cela que nous allons travailler avec les uns et les autres, mais les Africains ne veulent servir de faire valoir pour qui que ce soit. Nous voulons des partenaires honnêtes, des partenaires qui nous respectent et des gens qui veulent travailler dans le sens du partenariat. Pour asservir l'Afrique, ça c'est terminé. La jeunesse africaine ne se souvient pas de la colonisation et elle ne veut être colonisée par personne. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette jeunesse qui va augmenter indubitablement et qui maîtrise bien les outils des nouvelles technologies, parce que vous savez, nous traversons la quatrième révolution industrielle, mais l'Afrique doit d'abord faire sa première révolution industrielle, la révolution agricole, se nourrir. Et là, nous comptons quand même sur des pays comme la Russie aussi, pour nous aider avec les terres arables que nous avons, qui constituent 65% des terres arables non cultivées dans le monde. Mais l'Afrique n'arrive toujours pas à se nourrir elle-même d'abord. Mmh. Et ça, c'est un défi que nous devrions relever en même temps que la paix et la sécurité. Mais nous voulions des partenariats gagnants.
D'accord. Le message, j'espère qu'il est bien arrivé. Alors, on est à quelques semaines du sommet, justement, Russie-Afrique, qui va se tenir à Saint-Pétersbourg fin juillet. J'espère d'ailleurs vous rencontrer là-bas. Et est-ce que vous, en termes justement d'industrialisation, de production de l'eau, parce que c'est un problème quand même qui est pénible dans beaucoup de pays, on a notamment ceux du Sahel, en Afrique subsaharienne, et l'énergie, et puis l'agriculture. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport justement dans ces domaines?
Vous savez, avec les changements climatiques, nous en avions déjà parlé, c'est une véritable calamité pour nos pays. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, les Africains dépendent de l'agriculture pluviale à 90%. Mmh. C'est-à-dire, on attend la pluie, c'est la pluie qui constitue la base de l'agriculture. Mais avec les changements climatiques, nous n'avons plus de saison. Et vous voyez la sécheresse qui a lieu actuellement dans une partie du Sahel et Absolument. Dans la Corne de l'Afrique.
Même
et
en Afrique du Nord. Même
un
en
pays
Afrique
qui est bien
Nord.
Arrosé comme le Kenya. Oui, en Afrique du Nord aussi. OK. Donc, les pays comme le Kenya qui sont d'habitude bien arrosés, on connaît des difficultés énormes. Mm-hmm. Donc, l'eau, c'est une source de vie et évidemment, il va falloir aller vers plus d'irrigation, mais aussi les images satellitaires. Et je pense que certains pays comme la Russie peuvent beaucoup nous aider dans ce sens. Tous ces pays qui disposent des satellites, des images satellitaires, peuvent beaucoup aider dans la planification et l'identification des points d'eau aussi. Et pour qu'on aille vers la petite irrigation et l'irrigation et, aussi.
C'est-à-dire que...
parce que...
Il y a les systèmes énergétiques dont aussi dispose la Russie qui peut contribuer énormément à la production de l'eau dessalée, de l'eau de mer, c'est-à-dire le dessalement de l'eau de mer. Avec la technologie nucléaire, on peut arriver à 1 million de mètres cubes par jour, par centrale. Donc...
Cela est très important, mais vous avez parlé d'énergie aussi. Mais l'énergie, l'Afrique est le continent le moins électrifié au monde. Est-ce que vous savez que les 1,4 milliard d'Africains produisent moins d'électricité que les 82 millions d'Allemands?
Oui, oui.
Et il y a 10 pays en Afrique qui constituent près de 80% de la production installée. L'Afrique du Nord est électrifiée à presque 100%. Mais il y a encore 6 pays en Afrique qui ont un taux d'électrification de moins de 25%. Mmh. Donc, aujourd'hui, sans énergie, sans source d'énergie propre, fiable et à moins de coûts et moderne, évidemment, ça va être difficile de s'industrialiser. Et les investissements en énergie sont relativement chers pour ce qui concerne les barrages et les réseaux électriques. Mais il va falloir aller vers les énergies renouvelables aussi pour renforcer quand même l'accès à l'énergie. Mais aussi, vous avez parlé de l'agriculture. L'Afrique en compte continue à importer un tiers des denrées alimentaires qu'elle consomme.
Absolument.
C'est énorme. Et c'est inadmissible que 60 ans après les indépendances, que nous continuons à importer alors que nous avons 65% des terres arables au monde non cultivées. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons les bras vallés. Donc, il va falloir qu'on réforme un peu tout cela, mais il va falloir que les Africains... Personne ne peut... Nous ne pouvons pas constituer des partenariats si nous-mêmes, nous n'avions pas de stratégie, si nous n'avons pas de vision par rapport à ce que nous voulons obtenir avec nos partenaires. Donc là, je lance un appel aux Africains quand même que nous nous remettons au travail pour quand même travailler décemment avec les partenaires qu'il faut, comme je l'ai dit sur les avantages comparatifs, mais il faut des politiques de productivité, des politiques industrielles. En tout cas, il faut des politiques de développement bien axées pour que nous puissions travailler avec les partenaires en fonction de ce qu'ils peuvent nous fournir et ce que nous pouvons leur fournir aussi.
D'accord. Donc, mais sur le plan de ce partenariat, est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs prioritaires sur lesquels il faut vraiment axer l'effort et ces secteurs peuvent en même temps jouer un rôle d'effet de levier ou d'entraînement pour l'ensemble de l'économie, comme par exemple l'agriculture, l'eau et l'énergie, les infrastructures?
Mais tout est lié, ils sont liés. Vous savez, nous avons eu un sommet sous la présidence du président Macky Sall sur le programme de développement des infrastructures en Afrique. L'Afrique a défini ses priorités en quatre domaines. Les technologies de l'information et de la communication, les transports, c'est-à-dire les corridors, les ressources souterraines en eau et l'énergie. Et donc, les projets prioritaires, il y a 19 projets prioritaires qui ont été identifiés, qui vont coûter 160 milliards de dollars US. Ce travail a été fait au niveau de l'Afrique. Mais pour aller plus loin, je pense que, comme vous l'avez dit, nous devons mener la première révolution industrielle, c'est-à-dire nous nourrir nous-mêmes et développer les agro-industries, c'est-à-dire l'utiliser l'agriculture en transformant davantage. Parce que vous savez aussi, avec cette zone de libre-échange continental, toutes les études ont soutenu que lorsque les Africains commercent entre eux, ils ont tendance à transformer les produits, à ajouter de la valeur. Et c'est en ajoutant de la valeur que nous arrivons à augmenter les revenus des populations africaines et aussi améliorer leurs conditions de vie. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous ne baissez pas les coûts des facteurs de production. La formation des ressources humaines, c'est-à-dire le capital humain, il faut que nous ayons des enseignements de bonne qualité, des programmes de formation de bonne qualité. Il faut que nous ayons de l'énergie disponible. Il faut que nous ayons le capital financier. Donc, il faut qu'il y ait des zones industrielles, le capital physique, c'est-à-dire des terrains bâtis où on peut aller transformer tranquillement, des zones économiques spéciales ou industrielles, mais aussi le capital immatériel, la science, la technologie, l'innovation et la recherche, ce qu'on appelle le capital immatériel aujourd'hui, parce que nous sommes dans la quatrième révolution industrielle aujourd'hui. Les services à haute valeur ajoutée, évidemment, nous avons la population la plus jeune au monde qui est la plus apte à utiliser les technologies de l'information et de la communication, parce que il s'agit pas aujourd'hui la Chine est en train de délocaliser une partie de son industrie parce que elle est dans les services à très haute valeur ajoutée maintenant, mais 97% de ce que la Chine exporte est manufacturé, sont des produits manufacturés. Alors que l'Afrique, nous avons moins de 3% des produits que nous exportons sont manufacturés.
D'accord.
Nous n'exportons que des produits bruts non transformés et nous importons des produits manufacturés. Il faut que cela change. Et c'est cela l'économie de traite, l'économie coloniale que nous devons transformer. Parce que si nous ne le faisons pas actuellement, il y a un signal alarmant, c'est qu'il y a entre 12 et 15 millions de jeunes Africains qui sortent des écoles chaque année, mais il n'y en a que 3 millions qui ont des emplois pour le moment. Donc, il faut créer des emplois d'aujourd'hui et de demain pour ces jeunes Africains. Et ça ne peut que se faire qu'à travers la production en Afrique.
Le message, je crois, est arrivé. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Modibo Mao Makalou, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la crise mondiale multidimensionnelle, ses enjeux, ses effets négatifs sur le développement en général. Alors, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien et pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était l'économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République du Mali. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.